le marathon. Radio 101.1. C'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U.
Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mardi 19 janvier et vous écoutez C'est vous qui le dites, la quotidienne d'info locale et citoyenne sur Radio U. Un photographe d'origine brestoise qui a une vision en noir et blanc. Un père parti il y a longtemps et dont les souvenirs sont presque effacés. Des corps nus retrouvés pendus en pleine Sibérie, avec juste une inscription mystérieuse gravée dans leur chair comme indice. Plusieurs villes et pays, de la Bretagne française à la Russie glaciale, en passant par l'Allemagne ou la Finlande. A priori, séparés, ces éléments n'ont rien en commun. Mais en réalité, quand on les assemble, ils forment « Exil pour l'enfer », le dernier polar de l'écrivain brestois d'origine lui aussi, Gwenaël Le Guélec. Un nom qui vous êtes peut-être familier, car il a écrit un premier livre, American Psycho, qui a reçu le prix du suspense psychologique 2019, prix présidé par Bernard Minier lui-même. On accueille donc Gwenaël Le Guélec, jeune écrivain mais déjà bien ancré dans le monde littéraire. Bonjour Gwenaël.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Pas de souci. Donc d'abord, je voulais revenir avec vous sur votre rapport à l'écriture en général. Et du coup, je me demandais depuis quand est-ce que vous écrivez ?
Pour tout dire, j'ai toujours été plus à l'aise avec les matières littéraires et les langues, tout ça. Et pour ce qui est de l'écriture en particulier, j'ai commencé au moment où je me suis lancé dans le premier roman, c'est-à-dire en 2014. Et avant ça, j'avais écrit quelques petits résumés de voyage par-ci par-là, mais c'était sans commune mesure avec des romans, quoi. Donc j'ai vraiment commencé avec le premier, puis depuis, je me suis pas arrêté, en fait.
Et on dit souvent que la lecture va avec l'écriture, ou l'inverse. Et je me demandais, c'est quoi le livre qui vous a le plus marqué ?
À ce jour, le livre qui m'a le plus marqué, c'est sans doute le premier thriller que j'ai lu. C'est Les Racines du Mal de Maurice Dantec.
Et est-ce que vous diriez que c'est ce livre-là qui vous a donné envie d'écrire, notamment des polars ?
Disons que ça m'a inspiré en termes d'atmosphère et de qualité d'écriture. Après, est-ce que c'est ce livre-là en particulier qui m'a donné envie d'écrire ? Ça y a contribué, en tout cas. Mais mes sources d'inspiration sont assez variées. On y viendra peut-être après.
Mais justement, parce que là, je parlais de ce livre-là, mais est-ce que, de manière générale, vous sauriez ce qui vous a donné envie d'écrire ? Parce que vous le disiez tout à l'heure, là, ça a toujours été plus facile pour vous de vous exprimer à travers les matières littéraires, mais est-ce que, plus qu'une facilité, il y avait autre chose, un besoin, peut-être ?
Les voyages que j'ai pu faire m'apportent beaucoup d'inspiration. Et comme je pratique aussi la photo, j'ai ramené des souvenirs en images des différents voyages que j'ai pu faire jusqu'à présent. Donc ça m'a donné envie de le retranscrire sur le papier. Après la musique aussi, la musique que j'écoute, qui m'accompagne quand même la plupart du temps quand j'écris, il faut le dire. Ça joue un rôle aussi, quoi. Bon, après, il y a une part d'imaginaire, bien sûr.
Oui, pas forcément. Et qu'est-ce qui vous attire dans l'écriture du polar en particulier, plus que d'autres formes de récits ?
Ça faisait partie de mes réflexions avant de me lancer sérieusement dans le premier. Et c'est le roman noir qui me donnait le plus envie de me lancer. Et puis, en fait, de fil en aiguille, je pense que je me situe un peu entre les deux genres, quoi. Entre les trois même, entre roman noir, polar et thriller. Et un tout petit peu, certains qualifieraient ça de nature writing, le côté on largue les amarres, quoi. J'aime bien ça aussi.
Et juste pour les auditeurs, est-ce que vous pourriez faire la différence très rapidement entre les trois types de récits dont vous parliez à l'instant ?
C'est pas une question simple. Disons que le roman noir, je pense que c'est assez ancré dans... souvent dans une même unité de lieu, avec une réflexion sur la société en toile de fond. Et puis un personnage qui traîne son spleen, mais pas forcément n'est-ce pas forcément dans le bonheur au quotidien. Bon, après c'est très personnel comme définition.
Mais c'est aussi ça qui est intéressant. Hein.
Après, pour ce qui est différencier le polar et le thriller, c'est déjà moins simple. Je pense que le thriller a un côté peut-être un peu plus spectaculaire, je dirais. Au niveau de l'histoire, du cadre éventuellement, et puis du final qu'on donne à son roman, quoi.
Oui, un côté révélation qui est peut-être un peu plus impressionnant.
Oui, peut-être.
Et donc là, à l'instant, vous parlez de vos voyages, mais du coup, parce que vous disiez que voilà, vous avez fait beaucoup de photos de voyages, etc. Du coup, pourquoi, enfin, même si on le verra après, la question des différents lieux sont beaucoup présents dans votre roman, mais pourquoi ne pas écrire justement un récit de voyage comme certains peuvent le faire plutôt se placer du côté de tout ce qui est thriller, polar, etc.
Bah, c'est là que l'imaginaire entre en jeu, quoi. J'aime aussi me lancer le défi de construire quelque chose, de construire une histoire qui va commencer comme un puzzle, justement, comme vous le disiez tout à l'heure, et puis qui, de fil en aiguille, en fait, tous les morceaux vont... toutes les pièces vont s'associer, et puis réussir à dévoiler, en fait, tout ce qui se cachait derrière sur la fin de l'histoire, quoi. Tout en mettant en scène différents personnages... pour lesquels j'essaye vraiment d'éviter les clichés. J'aime bien le côté atypique de mes personnages, pas seulement du personnage principal, mais même des personnages secondaires aussi.
Bon, ça, sur le côté atypique, on en reviendra après, mais moi, je vais revenir sur le côté un peu puzzle qui, on peut dire, caractérise d'une certaine manière le polar et tout ce qui est thriller, récit à énigmes. Comment on construit une intrigue policière avec un mystère, des points d'interrogation, des personnages qui sont inattendus, atypiques, comme vous l'aviez dit, par exemple, parce qu'on part d'abord d'une forme de résolution du problème avant de penser à la mise en œuvre du problème en question, et puis ensuite de comment va se présenter le problème. Est-ce qu'on écrit à l'envers ou pas forcément?
Ça, je pense que ça dépend vraiment des auteurs. Comme je le dis souvent, j'ai un ami auteur qui dit qu'il y a autant de chemin qu'il y a de pèlerins pour ce qui est de l'écriture, et je crois que c'est vraiment ça, quoi. Chaque auteur a sa manière de faire. Donc, sans avoir la prétention de dire que c'est la manière de faire, pour ce qui me concerne, pour le deuxième, en tout cas, pour Exil pour l'enfer, j'avais la vision des trois corps, en fait, qu'on retrouvait au début avec l'inscription. Et le lieu, je trouvais que la Sibérie s'associait vraiment, vraiment bien à ça. Enfin, en fait, d'ailleurs, pour revenir là-dessus, c'est pas tout à fait en Sibérie qu'on y retrouve. La Sibérie vient beaucoup plus tard dans l'histoire. C'est à la frontière entre la Finlande et la Russie.
La Russie, ouais.
Et la taïga, en fait. Et c'est vrai que ce cadre, je trouve que ça se mariait bien avec cette scène des corps qu'on retrouve pendus, gelés. Donc la toute première vision que j'ai eue, c'était ça. Et puis donc c'était une pièce de puzzle. Après, j'avais aussi l'idée d'un navire qu'on retrouve... sans équipage, cette fois-ci au large de Brest, pour garder le lien avec ma ville, qui a été assez centrale dans le premier roman, même si on voyageait aussi. Et au milieu de tout ça, le personnage principal qu'on retrouve tel qu'on l'avait laissé à la fin du premier roman. Donc là, je ne peux pas trop en dire plus pour les personnes qui n'ont pas encore lu. Et puis après, effectivement, il y a un personnage, une sorte de fantôme, qui était simplement évoqué dans le premier livre et qui, là, aura un rôle plus important au fil de l'histoire.
Oui, donc il n'y a pas forcément d'ordre de comment les pièces du puzzle s'assemblent, c'est ça, ça vient comme un peu à l'instant, j'ai envie de dire.
Voilà, puis une histoire se construit sur le moyen terme, quoi. On ne pose pas tout sur le papier dès qu'on commence à y réfléchir, donc c'est progressif, quoi.
Justement, en parlant de progression, sur l'écriture en elle-même, sur la pratique, comment vous faites? Est-ce que vous écrivez régulièrement avec un rythme imposé? Je ne sais pas, par exemple, 2 jours par semaine, ou est-ce que vous écrivez plutôt à l'instinct?
Bah là, oui, c'est vraiment le mot, c'est écrit à l'instinct, quoi. J'aime pas m'imposer un rythme. Je sais que c'est une manière de faire aussi, de décider qu'on écrira tant de pages par jour, etc. Mais c'est pas... Moi, j'y arrive pas, donc... dès que j'ai un peu de temps libre, en fait, je le fais. Hein. C'est vraiment ma passion première, si je puis dire. Surtout pour le deuxième, en fait. Autant le premier, je l'ai écrit en pointillé sur un peu plus de 4 ans. Autant le deuxième, ça a été beaucoup plus resserré sur 14 mois, je crois. Et absolument tout mon temps libre, pour ainsi dire, est passé.
Et justement, là, vous parlez de passion. Aujourd'hui, avec un peu de recul entre le premier et le deuxième livre, qu'est-ce que ça vous apporte, l'écriture, dans votre vie ?
Bah, déjà, ça me permet de garder des attaches avec la Bretagne, parce que j'y suis pas tout le temps, malheureusement. Et puis, ça apporte aussi un équilibre, donc ça se rejoint un peu. C'est vrai qu'en ce moment, le contexte n'est pas forcément très joyeux dans la société, etc., par rapport à ce qui se passe, notamment au niveau sanitaire. Donc, de trouver un équilibre, quelque part, certains, ce sera par le sport, d'autres par le jeu vidéo, je sais pas. Bah, là, pour moi, c'est vraiment l'écriture. Et puis, un peu de lecture à côté, quand même, aussi.
Et est-ce que, dans votre pratique d'écriture, vous avez déjà traversé ce qu'on appelle le syndrome de la page blanche ? Donc, cette impossibilité à écrire, ce manque d'inspiration ?
Pour l'instant, non. En fait, j'ai pas mal d'idées. Le tout, c'est d'avoir suffisamment de temps pour pouvoir les organiser et les faire sortir sous forme de roman. Et si jamais ça arrive que je sois un peu moins inspiré, bah, je fais autre chose. Mais la page blanche, à proprement parler, non, ça m'est pas arrivé.
Oui, donc beaucoup d'inspiration, beaucoup d'idées différentes, c'est ça ?
Bon, ouais, on peut dire ça, ouais.
Et avant de continuer, on va juste faire une pause musicale en écoutant « Bad is as bad does » de The Hurlies.
We'll be right back.
sur le 101.1 FM dans l'émission C'est vous qui le dites. Et on est toujours en compagnie de Gwenaëlle Le Guélec pour discuter de son deuxième livre sorti très récemment et qui s'intitule Exil pour l'enfer. Donc c'est ce que je dis tout à l'heure, ça c'est votre deuxième livre. Et pour le premier, enfin après la rédaction du premier, vous avez reçu des conseils de Bernard Minier, qui est un grand écrivain de polar français. Est-ce que ça vous a aidé pour la construction de ce deuxième récit ?
C'est vrai que quand j'ai eu terminé l'écriture du premier, du moins la version alpha, on va dire, il m'a envoyé des conseils en président du jury du prix du système psychologique à l'époque, petite dizaine de pages qui m'ont clairement apporté des notions que j'avais pas forcément de base, étant pas véritablement écrivain à ce moment-là. Et oui, ça a valeur sur le long terme. Donc tes conseils, je m'en souviens. Ouais.
Et parce que là, à l'instant, vous parlez des notions. Est-ce que vous auriez des choses en tête dont vous pourriez nous parler, des conseils en particulier peut-être?
Ah, par exemple, je me souviens qu'il m'avait dit de toujours se méfier de la première idée quand on crée la trame de l'histoire, qui est le moment le plus important en fait, à mon sens, quand on écrit un roman, c'est vraiment de ne pas se rater sur la trame. Et des fois, on peut être tenté de penser qu'on tient vraiment la bonne idée et en fait, il fallait pousser un peu plus loin pour la faire venir. Et bon, c'est vrai que ça, il m'avait dit, ouais.
Et toujours sur le fait que c'est votre deuxième roman, donc ce deuxième roman c'est une suite du premier, pour autant on peut les lire de manière séparée, en tout cas moi c'est ce que j'ai fait et j'ai pas été particulièrement gênée dans ma lecture du deuxième sans avoir lu le premier. C'est important pour vous que malgré que c'est une suite, on puisse les lire plus ou moins indépendamment des autres?
Ouais, bah j'aime bien l'idée qu'on retrouve en fait le même personnage avec sa spécificité, c'est-à-dire qu'il voit le monde en noir et blanc, mais de construire des intrigues indépendantes. Donc là, mon projet, en fait, pour ce personnage, pour Yoran Orozco, c'est de faire une trilogie. Donc il pourra se lire, effectivement, soit à la suite, soit chaque volume indépendamment. Après, il y a des petits clins d'œil entre les différents tomes, ce qui est intéressant aussi, quoi.
Oui, bien sûr, mais c'est pas forcément une obligation de le lire vraiment à la suite.
Non, après, le plaisir, c'est de retrouver le personnage ou de le découvrir, en fait. C'est... Les deux sont possibles.
Et justement, en parlant de personnage, bon, on reviendra à Yoren un peu plus tard, mais est-ce que pour les créer, que ce soit Yoren ou même les autres, qui sont tout aussi importants, vous vous inspirez de personnes qui sont autour de vous, que ce soit vos proches ou même juste des gens que vous pouvez croiser une fois dans votre vie?
Ben, c'est-à-dire que, ouais, les personnages... En fait, ils proviennent pour certains de rencontres que j'ai pu faire, des personnes qui m'ont particulièrement inspiré, que j'ai connu ou pas d'ailleurs, des fois on croise une personne et c'est suffisant pour donner de l'inspiration, et puis il y en a qui sont totalement fictives. Après, si j'avais une anecdote, là, ça correspond plutôt au premier roman, mais quand j'ai eu la chance d'aller en Islande en 2016, et là-bas il y a une île tout au nord qui s'appelle Grímsey, et en fait sur le navire qui faisait la traversée jusqu'à cette île là j'avais vu un prêtre en fait qui avait consommé un petit peu d'alcool sur le bateau, et du coup je l'avais replacé dans l'histoire du premier, en fait, quand Yoran prend ce même bateau pour aller sur Grímsey, il croise aussi ce prêtre, oui, qui allait en fait à un enterrement, il allait donner une messe d'enterrement, pour la petite histoire.
Oui, donc une sorte de mélange entre des personnages à la fois inspirés des gens que vous pouvez croiser, que ce soit des gens proches ou pas, et des personnages qui soient totalement fictifs, c'est ça?
C'est ça, oui.
Et juste avant de passer vraiment au roman et à l'histoire, je voulais savoir, vous êtes édité dans la maison d'édition Nouveaux Auteurs. Je me demandais comment vous vous êtes rencontrés. Est-ce que c'est vous qui êtes venu vers eux? Est-ce que c'est l'inverse? Comment ça s'est passé?
En fait, quand j'ai terminé l'écriture du premier roman... Bah, je me suis dit que, arrivé à ce stade, j'avais rien à perdre à démarcher les maisons d'édition. Donc je l'ai fait. En fait, ils ont fait partie à l'époque de la quarantaine de maisons d'édition que j'ai démarché par voie dématérialisée uniquement. Dans un premier temps, j'étais dans cette optique-là. Et il se trouve que c'est une des toutes premières à qui j'ai envoyé le manuscrit, et puis ils m'ont répondu 3 mois après, donc ce qui est relativement rapide. Et en fait, après, ça a été assez vite, quoi. Donc là, je suis conscient que j'ai quand même eu de la chance, quoi, par rapport à certains parcours d'auteurs qui sont en recherche d'éditeurs, parce que cette partie-là est, je pense, la plus délicate, quoi.
Oui, c'est vrai qu'on n'en parle pas forcément souvent, mais la recherche d'éditeur est très longue, et c'est vrai que quelques mois, ça reste assez court par rapport à la moyenne de ce milieu. Ouais. Est-ce que vous pourriez, enfin, parce qu'au début de l'émission, là, j'ai un peu dit en quelques mots ce qui se passait dans ce roman, les différents éléments qu'on pouvait retrouver, mais c'est toujours plus intéressant, je trouve, quand c'est l'auteur qui dévoile un peu le synopsis, le résumé de son récit. Est-ce que vous pourriez le faire, en quelques mots?
Oui, ben en fait, bon, je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure. Au départ, on découvre 3 corps pendus, totalement gelés, dans la taïga, à la frontière entre la Finlande et la Russie. Peu de temps après, un navire est découvert sans son équipage au large de Brest. Et en fait, les corps qui ont été retrouvés portent une inscription cryptique, on va dire, Dead for no one, donc mort pour personne. Et le personnage principal, donc qui est, comme on l'a dit, photographe, et qui est au début de l'histoire dans un hôpital pour les yeux, en fait, quelque part en Europe, lui va prendre connaissance du navire qui a été retrouvé sans son équipage, et va être amené à retourner sur Brest pour les funérailles d'un ami, funérailles qui vont se dérouler sur l'île d'Ouessant. Et en fait, de fil en aiguille, il va découvrir des liens, en fait, entre ces deux événements et par rapport à certaines personnes, dont une qu'il avait eu l'occasion de rencontrer par le passé. Et puis, bon, voilà, ça commence comme ça. Et en fait, cette quête va le mener dans différents pays d'Europe que vous aviez évoqué tout à l'heure. Donc l'Allemagne, notamment, l'Estonie, la Finlande, et puis tout à la fin, la Russie, dans ses contrées les moins hospitalières, on va dire.
Ouais, merci pour ce résumé. Je voudrais vous demander de lire un extrait de votre choix, de votre roman, pour que les auditeurs aient un peu une idée de votre style, de comment c'est écrit.
D'accord. Bon, j'en ai sélectionné un. Il faut m'arrêter si jamais...
pas de soucis.
Je ne sais pas bien ou si c'est trop long, il ne faut pas hésiter. Hein. Alors en fait, pour placer le contexte, ça se passe en Russie. En fait, le personnage principal, Yoran, il est dans un bar et il cherche quelqu'un pour l'accompagner jusqu'à une mine de charbon où il pense rencontrer certaines personnes, sans en dire davantage. Alors, je commence. Une forte odeur de mélasse, d'agrumes et de coco imprégna très vite ses narines. Les deux types assis près de la fresque du général Lee n'avaient pas bougé d'un iota, les autres semblant avoir oublié sa présence. Il dépassa un groupe d'hommes adossés à l'encadrement du couloir menant à l'autre pièce, aussi hilar qu'apathique, et y pénétra. On y voyait encore moins, mais Yoran estima le nombre de clients à une bonne douzaine, peut-être davantage. Tous étaient enfoncés dans des fauteuils, quelques-uns jouant aux cartes, sans toutefois donner l'impression d'y croire vraiment. Les murs qu'il parvenait à entreapercevoir étaient décorés d'affiches rappelant l'âge d'or du cinéma américain et de publicités pour des boissons gazeuses remontant aux années 50 et 60. Une pancarte métallique portait même l'indication « No smoking ». Yoran se dit qu'il devait s'agir là du mot russe. Il chercha vainement une place pour s'asseoir, se rendant finalement à l'évidence. Il lui faudrait prendre la parole devant tout ce petit monde, qu'il le veuille ou non. L'un d'entre vous pourrait-il me conduire jusqu'au mine de charbon? Personne ne bronchant, Yoran répéta sa question une seconde fois. Les moins amorphes commencèrent à le dévisager, d'autres marmonnant en russe, sans pour autant prendre la peine de regarder dans sa direction. Visiblement, il était le cadet de leurs soucis. Kuzbass, charbon, est-ce que ça parle à quelqu'un? Il frôlait la provocation, mais l'urgence ne lui permettait plus de faire autrement. Malheureusement, il sentit un léger regain d'attention autour de quelques tables. Aucune réponse probante n'émergea.
Merci, je pense qu'on va s'arrêter là.
Ouais.
C'est parfait, ça donne une petite idée de l'écriture. Donc le personnage principal, Yoran, il est atteint d'achromatopsie. Donc c'est-à-dire qu'il voit la vie qu'en noir et blanc, c'est une maladie. Donc forcément, ça influe sur ta vision des choses. Ça peut même lui créer des obstacles, des barrières dans certaines situations. Je me demandais comment est venue cette idée d'avoir un personnage qui voit en noir et blanc.
En fait, c'est venu en même temps que le genre dans lequel je voulais me lancer. Donc, roman noir, thriller, surtout le côté roman noir, en fait, voir le monde et la ville, en fait, en l'occurrence Brest au départ, en noir et blanc. Je trouvais que ça permettait de sortir un peu des sentiers battus, quoi. N'étant pas particulièrement intéressé par le fait de mettre en scène un policier, puis surtout j'ai pas les connaissances pour. Donc je voulais trouver autre chose. Un photographe, c'est déjà, ça sort un peu de l'ordinaire, mais ça s'est déjà vu. Et un photographe qui voit le monde en noir et blanc, c'était peut-être un peu plus original. Et puis du coup, effectivement, ça impacte l'histoire, puisqu'il est amené à sortir pratiquement toujours la nuit. Il évite toutes les sources de lumière. Et puis les environnements autour de lui s'y prêtent, quoi. Là, par exemple, Brest, mais c'est vrai que dans le deuxième, il va à Berlin aussi. Il faut que ça s'y prête assez. Voilà.
Et justement, vous parlez que vous n'avez pas forcément assez de connaissances pour faire évoluer le personnage d'un policier. Mais là, pour faire exprimer, on va dire, un personnage qui est atteint d'achromatopsie, il faut avoir quand même des connaissances, j'imagine. Comment on se renseigne sur une pathologie comme celle-ci ?
Bah, sur ce sujet-là, comme sur beaucoup d'autres, il faut bien dire que Internet est d'une grande aide. Ça fait pas tout, mais bon, ça apporte quand même une somme de connaissances que n'avaient pas les auteurs, si on remonte aux auteurs du 19e siècle ou même au début du 20e. C'était beaucoup plus compliqué pour accéder aux sources d'informations. Donc après, en fait, je la connaissais pas, cette maladie, au départ. Hein. J'ai eu l'idée d'abord d'un personnage qui voit le monde en noir et blanc sans savoir si c'était possible. Donc de fil en aiguille, je me suis renseigné et j'ai découvert cette maladie. Et après, je me suis renseigné un petit peu dessus, mais c'est vrai que j'ai pas rencontré de personnes atteintes ou autres. Mais on peut trouver des témoignages en ligne, notamment la personne qui a conçu l'iBorg, c'est un casque en fait qui permet d'entendre les couleurs.
Et qui existe réellement ?
Qui existe réellement, ouais. La personne s'appelle Neil Arbison. Il est même passé à Brest fin 2019, je crois, faire une conférence au Capucin.
Oui, donc c'est Internet, mais c'est surtout des témoignages, c'est des données un peu scientifiques que vous avez pu rechercher pour vous renseigner, c'est ça ?
Voilà, après ça se recoupe, hein, les témoignages, on les retrouve souvent sur des sites d'associations. Bah, ils ont créé une association d'ailleurs qui considère, entre guillemets, comme des cyborgs, les personnes qui utilisent cet œil, cet iBorg.
Et là, en préparant l'émission, moi, j'ai pu trouver 2-3 critiques, que ce soit positives ou négatives, sur votre roman, parce que, bon, 2-3 seulement, parce qu'il est sorti très récemment. Il y a une personne qui regrettait, si je puis dire, le fait que vous n'ayez pas tant que ça insisté justement sur cette pathologie, sur cette vision en noir et blanc, et qui avait l'air de penser que, ouais, voilà, vous auriez pu faire quelque chose d'encore plus particulier sur la description des paysages, sur vraiment, enfin, ouais, vraiment rajouter des éléments en plus pour que, en tant que personne en dehors de l'histoire et en plus n'étant pas atteint par cette maladie, on se rende vraiment compte de ce que vit Yoren, en fait. C'est quelque chose que vous entendez et que potentiellement vous modifierez peut-être un peu s'il y a une suite.
En fait, de quoi vous parlez, c'est sur le site des nouveaux auteurs. En fait, le principe des nouveaux auteurs, c'est de faire lire les manuscrits à un comité de lecteurs, en fait, ce qu'ils appellent des bêta lecteurs. Et suite à ces premiers retours, on retravaille notre manuscrit. Donc en fait, ces retours, j'en ai tenu compte dans le travail éditorial du deuxième roman qui a été fait un petit peu avant la fin de l'année, en fait. Donc par exemple, justement, je sais que l'iBorg, une des critiques qui avait été faite, c'est qu'il n'était pas forcément suffisamment mis en scène après avoir été présenté dans l'introduction de l'histoire. Donc là, je l'ai remis en scène plusieurs fois au fil de l'intrigue, ce qui permet à Yoren de l'utiliser, tout en mettant en avant sa vision monochrome, quoi. Et après, le fait qu'il sorte que le soir, c'est aussi une conséquence qui paraît pas forcément flagrante, mais c'est une conséquence de sa maladie, quoi. Que le soir et la nuit, surtout.
Et juste avant de continuer, on va faire une autre pause musicale en écoutant cette fois Comme Heureux. de Club des Losers.
Être comme c'est comment? Être comme c'est comment? Être comme c'est comment?
Les rues sont pleines de gens perdus que personne ne va rechercher. Les yeux pleins d'amour vaincu et de rêves un peu au perché. Pour ne pas tomber en sommeil, vos vies me servent de parabole. Y'a toujours des places au soleil, mais pas assez de parasols. Tellement d'images qui te renvoient un portrait de toi sans éclat. Vraiment dommage, je te revois, tu scrolles là sans être là. Et t'as gagné, tu le ressens, mais ça te perd dans la pratique. Je ne peux plus fondre pour toi, mon cœur de glace a fui l'Arctique. Tous ces girouettes dans le vent ont quelque chose de pathétique. Ma silhouette se découpe en gants sur un beau ciel bleu électrique. Pourquoi me mettre à leur place? Nous ne sommes pas accommodables. Je veux seulement pouvoir leur prendre si elle me paraît confortable.
Être comme c'est comment?
On ne veut pas le savoir. Leur vie pour la plupart ne sera jamais dans l'histoire.
Être comme c'est comment?
Tout dépend si l'on ment. On avance mieux en s'encombrant de beaucoup moins de sentiments.
Être comme c'est comment?
On ne veut pas le savoir. Leur vie pour la plupart ne sera jamais dans l'histoire.
Être comme c'est comment?
Tout dépend si l'on ment. On avance mieux en s'encombrant de beaucoup moins de sentiments.
Être comme c'est comment? Je n'en suis plus depuis 10 ans déjà. Mais je me souviens la sensation d'être le suivant de celui qui suivait. Je la connais bien, je ne ressemble pas à ces gens-là qui me ressemblent tant.
Être comme c'est comment?
On ne veut pas le savoir. Leur vie pour la plupart ne sera jamais dans l'histoire.
Être comme c'est comment?
Tout dépend si l'on ment. On avance mieux en s'encombrant de beaucoup moins de sentiments.
Être comme c'est comment?
On ne veut pas le savoir. Leur vie pour la plupart ne sera jamais dans l'histoire.
Être comme c'est comment?
Tout dépend si l'on ment. On pense mieux en s'encombrant de beaucoup moins de sentiments.
Vous êtes sur Radio U dans l'émission C'est vous qui le dites. Et on parle toujours du polar Exil pour l'enfer, qui vient de sortir avec son auteur, brestois d'origine, Gwenaël Le Guélec. Dans votre livre, on alterne entre le point de vue de Yoran et celui d'un homme que vous appelez l'homme sans âge, dont on ne sait pratiquement rien. En termes de construction d'un récit, d'une structure, c'est pas trop difficile de superposer deux personnages dont un dont le lecteur ne sait quasiment rien?
Justement, en fait, c'est l'une des pièces de puzzle de cette histoire qui m'est venue très tôt aussi. C'était l'idée de mettre en scène un personnage qui avait pratiquement pas d'identité, a priori, qui était pas tout jeune, et on savait pas grand-chose sur ses agissements ni ses motivations. Et pour tout dire, c'est vraiment le personnage que j'ai adoré développer au fil de la construction de l'histoire, quoi. Et petit à petit, on découvre, sans aller trop loin, on découvre quand même qu'il est missionné pour faire quelque chose. Je sais pas si je peux en dire plus, mais.
Bah c'est vous qui voyez, hein.
Bon, c'est une sorte d'assassin en quelque sorte, quoi.
Oui, qui a un métier un peu particulier.
Qui a un métier particulier, et des méthodes aussi qui lui sont propres. Et ce qui est assez marrant sur ce personnage, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il ne parle qu'une seule fois dans l'histoire. Il dit juste deux mots, et pourtant, c'est peut-être bien le personnage le plus riche au niveau de sa construction, de mon point de vue en tout cas. Et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le faire évoluer, à lui donner des traits de caractère très spéciaux. Bah, il est fan des Doors, par exemple. Son acteur préféré, c'est Christopher Walken, que j'aime beaucoup. Et il s'en inspire énormément dans son quotidien. Puis il a un côté très soucieux de l'environnement en général et de sa santé en particulier. Et c'est vrai qu'il évolue d'abord indépendamment, trace son chemin, et puis il est amené à croiser Yoran une première fois, et à la fin, ils font bien plus que se croiser, quoi.
C'est sûr. À travers la lecture, on passe par beaucoup d'endroits différents. C'est ce que je disais tout à l'heure au début de l'émission. Brest, bien sûr, mais pas que. On passe à Berlin, à Budapest, à Helsinki, etc. Pour avoir, moi, personnellement, été dans certaines de ces villes, en lisant ce que vous écriviez, j'ai vraiment ressenti l'ambiance que, moi, j'avais vécue à ces endroits-là. Et du coup, je me demandais, est-ce que vous-même, vous y avez été dans tous ces lieux qui sont décrits pour vous imprégner des lieux, de l'ambiance? Ou est-ce qu'il y a quand même des lieux qui ne tiennent qu'à votre imagination?
Alors, déjà, merci pour votre retour, ça me fait plaisir. Pour ce qui est des lieux que j'évoque, je m'efforce au maximum de mettre en scène des endroits où je suis allé, des pays où je suis allé. Et alors, dans ce roman-là, par contre, il y en a un, le pays de la scène finale de l'histoire, en fait, je m'y suis pas rendu, hein, pas à ce jour. Et du coup, j'ai fait beaucoup de recherches sur ce point-là. Et là aussi, il y a une part d'imaginaire qui est entrée en jeu, forcément, quoi. Après, pour les pays que vous évoquiez, Allemagne, Hongrie, Finlande, etc., j'ai eu la chance d'y aller. Ouais.
Oui, donc un récit qui s'inspire à la fois des personnages, mais aussi des endroits que vous avez pu traverser personnellement.
Oui, exactement.
Donc, vous le disiez à l'instant, il y a une partie du récit qui se passe en Finlande, avec des personnages qui ont des noms qui sont inspirés de la mythologie du pays. Et il me semble que dans votre premier livre, il y avait déjà des liens avec les pays nordiques. Et je me demandais si c'est quelque chose qui vous attire. Et en plus, pour du polar, et enfin, du peu de polar que j'ai lu, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup qui se passe dans ces pays-là. C'est quelque chose qui vous attirait pour l'écriture d'un polar, ces pays nordiques?
Les pays nordiques, déjà, m'attirent énormément. Même au-delà du simple cadre de la lecture ou de l'écriture, c'est des endroits où j'ai eu la chance de me rendre et que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Pour parler un petit peu de l'écriture, l'un de mes auteurs préférés, je pense que les gens commencent à le savoir, parce que j'en parle souvent, c'est Jo Nesbø, qui est un petit peu l'apôtre du thriller en Norvège, hein, qui est une plume de génie, qui a écrit des romans absolument excellents, notamment la série Ariol, que je recommande vraiment pour les amateurs de thriller nordique, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu en tout cas. Et c'est un auteur que j'ai découvert quand je suis allé en Norvège, justement, juste son nom, puisque il venait de sortir un roman, son dixième de la série Ariol à l'époque. Donc bien sûr, je ne l'ai pas lu sur le coup, puisqu'il était en norvégien. Et je me suis renseigné sur lui à mon retour en France, et je me suis lancé après dans ce qu'il a écrit. Et c'est vrai que ces pays-là s'y prêtent bien. C'est comme Brest, c'est des endroits qui se prêtent bien au polar, comme Brest ou Berlin. Des villes comme ça, quoi. Et la Finlande aussi.
Ouais. Justement, c'est ce que j'allais dire, il y a aussi beaucoup de polars français qui se passent en Bretagne, à Brest, mais pas que. Comme si, pareil, cette région, elle portait avec elle plus de mystère, peut-être plus d'intrigue. C'est quelque chose que vous avez ressenti dans l'écriture de ce livre, le fait de placer une partie à Brest, ce qui pouvait potentiellement augmenter la part de mystère, de suspense?
Ouais, déjà, j'avais envie qu'on retrouve Brest, puisque dans le premier roman, Brest est vraiment très présente. Dans ce deuxième, l'intrigue fait qu'on peut pas y être autant, mais je voulais quand même que Brest ait sa place dans l'histoire. Et après, c'est vrai que il y a pas mal d'endroits qui font vraiment très polar, très thriller dans cette ville. Hein. Je pense que les gens le savent déjà, mais tout ce qui est le port de commerce, les tunnels qui étaient assez mis en avant dans le premier roman, les tunnels sous la ville, il y a beaucoup de choses à dire sur Brest. Notamment dans le milieu du polar.
Et pour revenir sur l'histoire, je vais spoiler et en même temps pas trop. Yoren, à un moment, il prend connaissance de l'existence d'un collectif qui regroupe de nombreux chercheurs, un collectif qui s'appelle Théoria, et qui a pour but, si je résume de manière très grossière, le rassemblement de données, de documents d'ordre scientifique qui proviennent de partout dans le monde. Mais ce collectif, il a une face cachée, un groupuscule, si je puis dire, dont les valeurs ne sont pas aussi positives que ce qu'on pourrait penser. Et je me demandais si pour la création de Théoria et de cette branche un peu plus négative, vous vous étiez inspiré d'un groupe, d'un collectif qui existe actuellement ou qui a pu exister.
Non, là, pour cette partie-là, c'est vraiment la pure invention. C'est vrai que le collectif regroupe tout un type de disciplines, pas tellement scientifiques d'ailleurs, ça peut être la photo ou la littérature, dans le but de compiler des données en fait sur l'humanité, etc., depuis ses origines jusqu'à nos jours. C'est un collectif qui s'appelle Théoria, effectivement. Alors Théoria, si je ne me trompe pas, ça veut dire ce qui est vu. Donc, j'aimais bien aussi cette symbolisation-là. Et dans ce collectif, il y a une branche qui se font appeler les gardiens, et qui en fait sont gardiens de valeurs qui sont pas forcément celles auxquelles on aimerait penser. Voilà. Et ils sont, ouais, pour finir là-dessus, ils sont dirigés par un individu qui se fait appeler l'œil et dont on ne sait absolument rien.
Et pareil, toujours sans trop spoiler, à un moment donné, l'histoire de Yoran va croiser l'histoire et le destin de certains migrants qui clairement ne sont pas vraiment en bonne posture. Et je me demandais si c'était important pour vous, même si votre récit est évidemment fictif, d'alerter d'une certaine manière sur le sort des migrants qui est tout aussi déplorable dans la vraie vie.
Bah, disons que c'est toujours intéressant quand on arrive sur un thriller, un polar, d'y installer un thème de société ou un thème d'époque qui est vraiment essentiel, voire brûlant, pour parler de ce thème-là, sans en dire davantage, mais c'est vrai qu'il y a une manière aussi de mettre le doigt sur ce sujet, sans avoir la prétention de savoir apporter des réponses, mais ça donne, je pense, une densité supplémentaire à l'histoire.
Et dernière question, vous finissez avec une fin qui est assez ouverte, avec différentes possibilités, si je peux dire, pour chacun des personnages. C'est une manière de préparer le lecteur à une suite, à un troisième tome?
Alors, à la fois oui et non. Oui, puisque forcément, Yoran, s'il se sort de cette histoire-là, il y a des chances qu'on le retrouve. Après, il n'est pas le seul mis en scène. Mais j'aime bien faire une ellipse aussi entre mes histoires. Donc, j'envisage pas de faire une suite qui commencera directement là où c'est terminé le deuxième, quoi. Au même titre que dans le premier, il y avait un personnage qui avait une place assez importante, qu'on retrouve là, alors qu'à la fin du premier, on savait pas vraiment quel allait être son sort. Et j'ai pas expliqué en détail ce qui s'était passé, mais c'est quand même évoqué. Bon, après, ce qui est clair, c'est que le personnage central, c'est Yoran, donc à travers lui, on apprendra des choses, c'est certain.
Oui, donc on va attendre avec excitation, si je peux dire, le troisième tome quand il sortira. En tout cas, merci beaucoup à Gwenaëlle.
Merci à vous, merci beaucoup.
Pas de soucis. C'était donc Gwenaëlle Le Guélec avec nous aujourd'hui pour discuter de son dernier polar, paru aux éditions des Nouveaux Auteurs le 7 janvier dernier, intitulé Exil pour l'Enfer, et qui, je pense, vous plaira indéniablement, et surtout les passages à Brest. C'est vous qui le dites, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de Radio U. Et je vous laisse maintenant avec la chronique radiophonique « L'économie autrement ». En 2004, des parents d'enfants autistes se sont rassemblés pour faire entendre leur voix. L'ABA Ille-et-Vilaine s'est fondée pour informer et aider des parents déboussolés par l'incompréhension suscitée par l'autisme. Une quinzaine d'années plus tard, le constat n'a pas changé et l'ABA continue d'œuvrer pour faciliter l'intégration des personnes autistes dans la société, notamment par des séances de sport. Ces séances de sport individuelles sont malheureusement victimes de leur succès, d'après le trésorier de l'association, Jérôme Lemasson.
L'économie autrement, le rendez-vous quotidien de l'économie sociale et solidaire en Bretagne.
Ça peut être un petit peu plus fatigué ou
ouais,
plus fatigué au niveau de la jambe.
Je vais observer ce côté-là.
Non, mais sinon, il est en bonne humeur, en pleine forme.
Donc, je suis Jérôme Lemasson. Je suis papa d'un enfant autiste qui va avoir bientôt 11 ans et membre du bureau de l'association ABA Ille-et-Vilaine avec la fonction de trésorier.
Bon, Mad, est-ce que tu es prêt? Oui. Tu peux prendre un plot blanc.
Les petits poissons.
Et c'est parti en cours.
L'accompagnement par Étienne au niveau de l'association, c'est la deuxième année que ça se fait. Cet accompagnement qui devrait, dans l'idéal, avoir lieu au sein des associations sportives, pour le sport à l'école, et pas seulement dans le cadre de séances et d'accompagnement individuel.
On en est loin, malheureusement.
Malheureusement, oui. Sachant que, bon, il y a pour l'accompagnement d'un enfant autiste, il y a pas mal de professionnels de différentes spécialités qui peuvent intervenir. Il y a les orthophonistes, il y a des éducateurs, de la psychomotricité. Le domaine du sport était assez peu abordé, sachant qu'on se battait déjà pour avoir toutes ces prises en charge. Le sport, ça passait souvent au second plan. Or, le fait de pouvoir développer des activités sportives, c'est bon pour les enfants. Ça permet aussi d'être un support pour développer les interactions sociales. Et ça permet aussi que l'enfant, à l'école, quand il va participer aux activités sportives à l'école, il ne soit pas complètement démuni, sans aucun outil pour que lui puisse se débrouiller dans ses séances de sport.
Donc il y avait un vrai besoin qui n'était pas pris en charge par l'État, par l'école, par les structures associatives et sportives. C'est là que vous vous êtes dit, à la Baie-Ille-et-Vilaine, on a un rôle à jouer peut-être, un vide à remplir en tout cas.
Ouais, tout à fait. C'est des besoins qui sont pas remplis, c'est des besoins dont on se rend pas forcément compte quand on est la tête dans le guidon à chercher déjà toutes les prises en charge essentielles, faire du soutien à la scolarisation pour que l'enfant puisse rester à l'école, trouver les bons professionnels, et puis on jongle entre avec un emploi du temps assez chargé pour ça. On n'a pas forcément conscience que cet aspect de sport est important, et d'activité physique est aussi important.
Bravo maman. On ramasse vite les anneaux. Et après tu peux prendre la trottinette.
Pourtant, aujourd'hui, les parents qui ont essayé, les enfants aussi, peuvent en témoigner, j'imagine.
Oui. Et puis, la demande augmente et dépasse ce que nous, on peut proposer avec l'association.
Vous apportez un soutien financier à ces séances de sport, ça a un coût, forcément.
Oui. Alors, on prend en charge une bonne partie des frais, de façon à ce que le reste à charge pour les familles, il y en a un, on ne peut pas tout prendre en charge, mais de façon à ce que le reste à charge soit supportable. On s'est trouvé cette année devoir limiter le nombre de séances par enfant pour qu'un maximum d'enfants puissent en profiter. Et on est toujours à la recherche de soutien financier pour nous aider à financer cette activité.
C'est malheureux ça, quand vous voyez les progrès que peut faire votre fils, par exemple, grâce aux séances de sport.
C'est dommage de ne pas pouvoir en faire profiter plus. Je pense que s'il y avait 2 ou 3 ou 4 Étienne, ça permettrait aussi de répondre mieux aux besoins des enfants. S'il y avait aussi les financements le permettant.
Ce reportage a été réalisé par la CorLab. Retrouvez-le en podcast sur corlab.org.
Thank you. saisons passées au ciel à étudier le fonctionnement de ton plus simple appareil. Puis tu t'es croisé avec je sais pas qui, mais les vacances étaient finies, ouais. J'imagine mon dernier voyage, bercé par le chant des sirènes de la police. Toi et ton Leonard Cohen, un seul père, tous ses fils. Mais il paraît qu'il y en a qu'un problème avec les juifs. Guidé par les ondes, mais pleure sous la pluie, pleure sous les gaz. C'est un trou de verdure où chante une rivière de larmes. Je me souviens le soleil, le diable et la plage. Et toi, la dormeuse du Valhalla, tu t'attendais à quoi? Tu voulais que je te dise la messe? Disais dans mon dernier SMS, va pas croire que je suis le genre de gars qui se barre et s'en bat les couilles. Je repasserai peut-être un soir prendre des nouvelles de ton boule. Depuis des années à pleurer dans ton lit, personne pour te voir. Mais rassure-toi, tant qu'il y a du réseau, il y a de l'espoir. Mais plus rien ne veut plus rien dire et l'horizon qui flotte. Avec ce qui nous reste à vivre, autant prendre ce qu'il y a à prendre. J'avoue, je donnerais ma vie pour un tour dans ton jean. Jean 11, 35, Jésus pleura. Des juifs, alors appelle-moi demain, demain Milosevic.
Facing rock bottom, pray she bounce back on top. American dream, a nightmare, please make it stop. Neighbors watching hell, modern day dress, got swinging rocks, black boy, white tank top, baggy jeans, dreadlocks, dreaming of that drop top, non-stop Chinese spot. Let me get a black in my lock, navigate liquor stores, project floors and vacant lots. We be the have-nots, what we have, we become what we got. Another car ride by system knocks, that new shit pedestrians jock. Hip-hop corner, stay a track in the flock, the paint immaculate watch. Single mothers hustle to punch the time clock, crime a cash crop, somebody running the dime drops. Ice grills mask a kind heart as time tops. Fathers a hologram, sons waiting for the day to snuff Uncle Sam. Why not? No sympathy for that man, he get what he deserved. Damn. Say he get what he deserved.
Tonight, ashes of a burst scattered, left over, we shattered.